Moi et Nathalie, on a le plaisir de vous parler du sujet peu joyeux de la dépression, mais je vous rassure, la présentation sera pas déprimante. Je pense qu'on va apporter des pistes de solutions. Vous allez voir, à la fin, on va avoir une fin, disons, peut-être joyeuse sur notre présentation sur la dépression. Donc, comment on va fonctionner? Moi et Nathalie, on a différentes parties à vous présenter. On va alterner. Je vais commencer. Nathalie va faire une partie. Je vais revenir et ensuite, elle va terminer. On va vous parler un peu de c'est quoi la dépression. On va vous dire un peu c'est causé par quoi. Et on va vous présenter des pistes de solutions. Comment, prévenir, parce qu'il y a certainement ici beaucoup de gens qui ne souffrent pas actuellement de la dépression, mais qui peuvent être sujets. Donc, on va parler de la prévention et on va parler aussi du rétablissement pour ceux qui sont malheureusement atteints ou qui souffrent de dépression actuellement. Donc ici, on a une petite citation qui décrit un petit peu bien peut-être les pensées d'une personne qui souffre de dépression. Ça dit « La dépression est un châtiment cruel. Il n'y a pas de fièvre, pas de rougeur, ni de test sanguin, juste la lente érosion de soi, aussi indispendieux que le cancer, aussi insidieux que le cancer. Et comme le cancer, il s'agit essentiellement d'une expérience solitaire, une chambre en enfer avec votre nom sur la porte. » Donc, vous pouvez voir que c'est le système de pensée d'une personne qui est en dépression, c'est pas joyeux, mais alors là, pas du tout. C'est difficile. Avant de continuer, on va faire une courte prière, puis ensuite, je vais poursuivre en vous expliquant un peu, premièrement, c'est quoi la dépression. Père éternel, nous te remercions encore une fois de nous avoir apporté ici pour nous éduquer sur cette maladie qui affecte tellement de gens. Seigneur, je te prie ce soir de nous aider à comprendre la dépression, les gens qui en souffrent, mais aussi à apporter des solutions, soit pour nous-mêmes, soit pour nous aider à aider des gens qui souffrent actuellement. Donc, soit avec nous, soit avec moi et Nathalie, pendant le temps que nous allons présenter. Je te remercie, je te prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, la dépression, c'est quoi? J'ai trouvé une petite définition sur le site Internet de la Fondation des maladies mentales que j'ai trouvé assez intéressante et facile à comprendre. Ça dit « Quand la déprime prend le dessus sur les humeurs habituelles d'une personne et empêche celle-ci de mener une existence normale, quand les symptômes sont persistants et intenses et que malgré le temps, rien ne semble s'arranger, alors ce n'est plus de la déprime, mais plutôt de la dépression. » Nathalie va plus tard vous expliquer vraiment en détail comment on l'identifie, mais je trouvais que cette définition-là est intéressante. Donc, ici, quelques faits sur la dépression. La dépression affecte plus ou environ 350 millions de personnes dans le monde actuellement. 350 millions de personnes, c'est à peu près la population des États-Unis au complet. Au moins une femme sur quatre et un homme sur huit souffriront d'au moins un épisode dépressif dans leur vie. Il y a moins d'hommes, comme vous pouvez voir. Par contre, chez les hommes, parfois, c'est pire. C'est plus intense et puis il y a plus d'hommes. Je ne sais pas s'il y a plus d'hommes qui tentent de suicider, mais il y a plus d'hommes qui réussissent à se suicider, parce qu'ils ont des méthodes beaucoup plus létales. Les femmes, par exemple, vont prendre des médicaments, ça ne va pas fonctionner, vont appeler 911. Mais les hommes, souvent, ils vont se jeter en bas d'un pont, ils vont se pendre, puis c'est fini après ça. Donc, ensuite, le nombre de cas de dépression augmente de plus en plus chez les jeunes. Je pense que ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on le sait tous, on le voit tous. Il y a beaucoup de jeunes qui suicident. Ma soeur me disait qu'il y avait comme eu 3 tentatives de suicide.
Entre les vacances de Noël et les vacances de la semaine de relâche, on a eu 3 tentatives de suicide à l'école.
Donc, au secondaire. Donc, on voit que c'est un vrai problème. Par contre, il y a de l'espoir. Mais si je reviens en arrière un petit peu, le problème aussi avec la dépression, c'est qu'elle est souvent, elle n'est souvent pas diagnostiquée. Les gens pensent que, bon, c'est leur état normal ou ils pensent que ça va passer. Ils ne se rendent pas compte qui sont en fait en dépression. Et le problème avec ça, c'est que pour qu'il y ait une solution, ben, il faut qu'elle soit diagnostiquée. C'est comme n'importe quelle maladie, évidemment. Et puis, là où il y a encore plus d'espoir, c'est quand la cause peut être identifiée. Là, une fois qu'on peut aller jusqu'à la cause, on peut vraiment traiter la dépression avec succès et on peut trouver une solution à la dépression qui va être durable aussi. Avant de continuer, avant de laisser la parole à Nathalie, je veux juste vous dire que notre présentation aussi a été grandement influencée par les travaux du Dr. Neil Nedley. Je ne sais pas s'il y en a ici qui savent qui est Neil Nedley, j'en vois quelques-uns. Je vous explique rapidement parce que vraiment, on s'est quand même inspiré. Neil Nedley, c'est un spécialiste de médecine interne américain qui est adventiste aussi comme nous. Et qui s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de ses patients, la médecine interne, c'est la médecine qui se spécialise dans les organes internes du corps humain. Il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de ses patients qui venaient le voir pour des maux de ventre, des difficultés de digestion, des choses comme ça. Il s'est rendu compte qu'en fait, la source de leur maladie, c'était la dépression qui cause justement certains problèmes de santé. Donc, il s'est intéressé évidemment à la dépression parce que pour traiter une maladie, il faut aller à la cause profonde pour la traiter de façon durable. Donc, il s'est intéressé il a fait des recherches sur la dépression puis il a monté un programme, vous en avez peut-être entendu parler, du programme Depression Recovery, qu'on appelle en anglais, qui traite la dépression surtout avec le mode de vie. On va vous le présenter, notre présentation porte essentiellement sur la façon de traiter la dépression avec le mode de vie, puis avec des méthodes, disons, naturelles. Donc, je cède maintenant la parole à Nathalie. Elle va vous expliquer un peu comment on identifie la dépression.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bon, je suis là parce que j'imagine qu'on m'a demandé de présenter sur la dépression parce que moi-même, j'ai eu l'expérience de la dépression pendant plusieurs années. Donc, si vous avez des questions après, n'hésitez pas, parce que on connaît un petit peu sur le sujet. Mais en tout cas, pour aller mieux et avant d'aller mieux, il faut savoir identifier qu'on a un problème. Et des fois, cette phase-là peut prendre beaucoup de temps, et dans mon cas, ça a pris quelques années. Comment j'ai commencé à penser que peut-être c'était une dépression, c'était parce que ma mère m'a dit « Tiens, je pense que tu es déprimée. » Et je pense que c'était la première fois que je me disais « Tiens, la dépression, peut-être que ça peut m'arriver à moi aussi. Et peut-être qu'il faudrait que j'y pense. » Donc, quels sont les symptômes de la dépression? Donc, il y a 9 symptômes principaux. Donc, on a la tristesse profonde, évidemment. Après, on a la fatigue constante et récurrente qui ne semble pas avoir d'explication. L'apathie, l'agitation aussi, les troubles du sommeil, le changement du poids, manque de concentration, surtout un grand sentiment d'inutilité, on ne sert à rien. Oui?
Je sais pas, c'est quoi l'apathie?
L'apathie, ben, c'est le contraire de l'agitation. Tu as tendance à rester sur toi-même. T'as envie de rien faire, t'as pas envie de penser, t'as envie de rien faire. C'est ça. C'est vraiment le contraire de l'agitation. Manque de concentration, sentiment d'inutilité et idées noires. Maintenant, si on a 5 symptômes sur les 9 que je viens juste de présenter, sur plus de 2 semaines, c'est-à-dire 5 symptômes-là sur 9 constamment, sur plus de 2 semaines, donc là, on peut commencer à parler de dépression. OK?
Je dirais juste une chose. Vous avez vu une tristesse profonde, puis on pense souvent que c'est automatique. Tous les déprimés ont une tristesse profonde, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens en dépression qui n'ont pas ce sentiment-là de tristesse. Mm-hmm. Je pensais que c'était intéressant de le mentionner parce que ce n'est pas automatique. Des fois, c'est juste un manque de concentration avec de la fatigue, des choses comme ça. Ça se peut que la personne ne se sente pas triste ou déprimé en tant que tel.
Mm-hmm. Bon, en tout cas, ça peut pas forcément se voir. Une fois que j'ai dit Une fois que j'ai fait mon témoignage après mon baptême, que j'ai dit que j'étais déprimée pendant plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais oui, mais je ne savais pas ». Parce qu'effectivement, ça ne se voit pas forcément sur le visage. Quelqu'un peut être bien, quelqu'un peut faire des jokes comme d'habitude, et justement en faire beaucoup, et puis on ne se rend pas compte que la personne est effectivement en dépression. Donc, les bonnes questions à se poser, elles ne sont pas toutes là, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, donc on a mis les principales, donc voici les questions à se poser. Ressentez-vous une tristesse inhabituelle et constante? Avez-vous du mal à vous intéresser aux actions du quotidien, loisirs, travail? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de... Je pense peut-être tous les cas de dépression. Il y a des choses qu'on aime faire et subitement, on ne veut plus les faire. Par exemple, on aime la natation et puis subitement, ça ne nous intéresse pas. On aime aller à l'école, on ne veut plus le faire. On aime les maths, on n'aime plus les maths subitement. Ensuite, vous vous sentez épuisé et sans énergie. Et ça, c'est souvent quand, par exemple, on mange normalement, mais on est tout le temps fatigué. On dort et puis ça ne sert à rien. On se réveille fatigué comme avant, comme si on n'avait pas dormi. Ensuite, avez-vous constaté une variation rapide et non voulue de votre poids? Prise ou perte de poids? Avez-vous des problèmes de sommeil, qu'il s'agisse de difficultés à vous endormir, des réveils en pleine nuit ou au contraire une envie constante de dormir sans jamais vous sentir reposé? Ça m'arrivait souvent. Avez-vous du mal à vous concentrer? Souvent, on sait qu'on a une décision importante à prendre, mais il semble que lorsqu'on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir, on a l'impression d'avoir quelque chose dans la tête qui fait qu'on n'arrive pas à penser. Même si on sait qu'on doit prendre une décision tout de suite, rapidement, pour notre propre bien, il semble qu'on n'a pas l'envie ni l'énergie de même commencer à réfléchir. Ensuite, avez-vous tendance à vous dévaloriser, à perdre confiance en vous? Donc, si vous répondez à, il me semble, c'est 3 ou 4 de ces questions-là par oui, on peut commencer déjà à parler de dépression. Donc, maintenant, il y a plusieurs types de dépression. Il y a les dépressions situationnelles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à l'extérieur de vous. Par exemple, vous perdez un être cher, vous perdez votre travail, vous perdez l'amour de votre vie et que vous vous sentez mal pendant plus de 2 semaines. On parle de dépression situationnelle. Par contre, il y a un autre type de dépression, et là on parle plus d'une maladie, on appelle ça une dépression majeure ou clinique, ou alors ça peut être aussi biologique, quand ça n'a rien à voir avec une situation, mais c'est quelque chose en nous qui crée cette dépression-là. Donc, si la personne a subi une perte importante au cours des 18 derniers mois, donc la personne souffre d'une dépression situationnelle. Par contre, si la personne n'a pas subi de perte importante, on parle de dépression majeure. Par contre, si la personne a répondu à 1 ou 3 des questions que je vous ai montrées tout à l'heure, là on parle de dépression légère. Donc c'est ce qu'on appelle comme une déprime, et ça a tendance à être passager, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Donc c'est ça, ne restez pas avec ça. Souvent, surtout pour les personnes qui vivent dans des familles où les gens ont tendance à être mélancoliques et déprimés, souvent les enfants très tôt commencent déjà à montrer les symptômes de dépression, et comme très tôt ils ont l'habitude de ces émotions-là, on a l'impression que ça fait partie de nous. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je suis comme ça, je suis mélancolique. Oh, je suis comme ça, je ne suis pas intéressée par grand-chose. » Mais ce n'est pas vrai. On n'a pas à rester avec ces sentiments-là, on n'a pas à vivre toute notre vie avec la dépression. Donc, on peut s'en débarrasser, mais surtout, quand la dépression s'est installée pendant plusieurs années, ça a des effets physiquement sur notre cerveau. Il y a des parties de notre cerveau qui réduisent en masse. Par exemple, surtout autour de l'hippocampe, qui est lié à la mémoire. Donc souvent, les gens qui ont souffert de dépression pendant plusieurs années ont du mal à mémoriser. Leur mémoire est quand même assez faible. Et ça, malheureusement, c'est souvent irréversible. Donc, quand vous identifiez une dépression, que ce soit majeure ou quelle que soit clinique, biologique, on peut s'en débarrasser et il faut commencer à se dire que oui, effectivement, on peut aller mieux. Ensuite, je crois que Marie-Michel en a parlé aussi. Souvent, en tout cas c'était mon cas, des fois on a des symptômes qu'on ne comprend pas. Et puis on va à l'hôpital ou on va chez le docteur. Une fois, deux fois, trois fois. Il semble que le docteur ne sache même pas quoi nous dire. Puisque... Et puis on s'inquiète. On a l'impression qu'on a des cancers. Bref, tout un tas d'affaires. Mais en fait, c'est juste la dépression. C'est juste qu'au bout d'un moment, ce qui nous arrive dans notre mental a des effets sur notre physique. Et souvent, les docteurs, ils connaissent ça. Donc, quand des fois on a un petit problème récurrent, le docteur va vous dire « Ah, c'est dans votre tête. » Parce que comme Marie-Michel disait tout à l'heure, la dépression crée beaucoup, beaucoup de maladies. Et donc aussi, augmente le risque d'AVC de 50%. Donc, on ne peut pas se permettre de garder la dépression, on ne peut pas se permettre de dire qu'on est comme ça et donc on va rester comme ça. Je ne pense pas que Dieu nous ait créés pour fonctionner à 50% ou à 30% de notre capacité. Donc on doit savoir et on doit intégrer le fait que ça ne se garde pas et qu'on peut guérir.
Donc,
madame, ça va.
Donc je vais poursuivre en vous parlant un peu des causes, de ce qui cause la dépression ou des prédispositions, des choses qui nous prédisposent à... développer la maladie, si on veut. Puis, il y en a deux sortes. Il y en a des non-modifiables, puis il y a des modifiables. C'est-à-dire que les non-modifiables, on ne peut rien faire. Si on a ces prédispositions-là, on est pris avec. Par contre, ça vaut la peine de les connaître, ça vaut la peine de les comprendre, parce que ce n'est pas de un automatique qu'on va avoir qu'on va souffrir de dépression si... on est prédisposé avec des causes non modifiables. Et de deux, ça nous permet aussi de porter davantage attention aux choses qu'on peut changer ou qu'on peut contrôler, aux causes ou aux prédispositions qui sont modifiables. Donc, la première, c'est la génétique. Il y a 5 gènes qui ont été... apparemment identifié comme prédisposant à la dépression. Puis en plus, on sait que chez les personnes qui ont un historique ou chez les personnes chez qui il y a un historique de dépression chez un membre de la famille immédiate, ces gens-là ont de une fois et demie à trois fois plus de chances de souffrir de la dépression. Maintenant, il faut que je dise que ça, c'est pas nécessairement dû à la génétique parce qu'il y a des... Il y a des causes environnementales aussi, mais ça reste que c'est un fait. S'il y a une personne dans votre famille immédiate qui a déjà souffert de dépression, vous êtes de une fois et demie à trois fois plus, vous risquez de 1,5 à trois fois plus de souffrir de dépression à un moment donné de votre vie. Puis ensuite, aussi, le développement. On peut pas changer notre passé, on peut pas changer l'environnement dans lequel on a grandi. Par contre, c'est bien pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt de le savoir, comme ça on peut être alerte de un et s'occuper encore plus des prédispositions qu'on peut contrôler, qu'on peut changer. Donc, il y a le fait de ne pas avoir été avec ces deux, été élevé par ces deux parents biologiques peut nous prédisposer à la dépression. Avoir subi ou avoir souffert d'un épisode de dépression à l'adolescence, avoir été victime d'agressions sexuelles à un moment donné, je pense que ça surprend personne. La consommation de drogue ou d'alcool à l'adolescence, j'ai mis problématique parce que la plupart de nous sommes adventistes, nous ne consommons pas de drogue ni d'alcool et toute consommation on considère comme problématique, mais ici on parle surtout de consommation importante de drogue et d'alcool. Pas que je vous encourage là, à consommer minimalement, mais quand même, on parle de quelque chose de plus qu'une bière. Ensuite, on a des habitudes alimentaires pendant l'enfance et l'adolescence. On a découvert que une forte consommation de protéines animales chez les enfants et les adolescents apporte une puberté précoce. OK? Puis ça, chez les filles, ça peut prédisposer aussi à la dépression. Important et bon à savoir, effectivement. Donc, maintenant, voici, je vais vous présenter maintenant les causes ou les prédispositions qui, sur lesquelles on a le contrôle, qu'on peut changer. Donc, premièrement, notre mode de vie. On a le contrôle sur notre mode de vie. Et effectivement, le mode de vie peut avoir une influence sur notre humeur, sur la dépression en tant que telle. Donc, vous connaissez les 8 lois de la santé. Elles sont toutes importantes pour notre santé physique et psychologique. Par contre, il y en a certaines qui sont particulièrement, qui peuvent jouer particulièrement un grand rôle sur le développement de la dépression ou le traitement de la dépression. Donc, premièrement, avoir un bon programme d'exercice. Ça peut sembler anodin, mais ça peut faire une différence. Ça peut prévenir, ça peut aussi servir dans le traitement pour la dépression. Une chose que j'ai pas dite au début, c'est que ce qu'on fait, c'est un survol. Tout ce qu'on dit, on n'aura pas toujours le temps dans une heure de vous expliquer pourquoi telle chose aide et pourquoi on ne pourra pas tout expliquer, mais on essaye de vous donner des idées. Puis c'est sûr que si vous avez plus de questions ou si vous avez plus d'intérêt, il y a toujours des endroits où vous pouvez obtenir plus d'informations. Donc, effectivement, l'activité physique peut jouer un grand rôle dans la prévention et le rétablissement de la dépression. Et puis là, ben, les options sont nombreuses, c'est sûr. Vous pouvez effectivement faire du sport occasionnel, jouer au soccer. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs ici de soccer, par exemple. C'est bon, mais je dirais pas que le sport occasionnel est suffisant. On parle ici d'un programme d'exercice constant, régulier, voire même quotidien. Puis là, ben, c'est sûr que vous pouvez... Il y a la marche rapide, il y a la natation, par exemple. Il y en a plein, il y en a plein. Puis j'ai mis aussi entraînement intermittent. Vous savez peut-être pas c'est quoi, mais c'est une façon de se mettre en forme très rapidement qui est pas trop difficile, dans le fond. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ça consiste, en fait, à... Disons que vous faites de la course. Ben, vous allez faire, une minute de course. Puis après ça, vous allez ralentir pendant une minute. Puis vous allez continuer pendant une minute à courir et ralentir. Ça permet aux gens de devenir en forme très rapidement. Puis en plus, ça empêche, le lendemain, les courbatures. Ça prévient les courbatures. C'est une façon qui est, peut-être plus encourageante à se mettre en forme parce que au lieu d'aller courir 15 minutes, ben on prend des pauses, on recommence, on prend des pauses, on recommence. Donc, l'exercice de 1. Ensuite, le soleil et la lumière. La lumière est nécessaire à la production de sérotonine qui, elle, contribue à l'équilibre du cerveau et de l'humeur. Et là, ici, dans un pays comme le nôtre, il y a ce qu'on appelle la dépression saisonnière. C'est-à-dire que quand le soleil se lève plus tard, se couche plus tôt, comme à l'hiver, il y a des gens qui sont dépressifs pratiquement à chaque hiver, à chaque année. Donc, la luminothérapie, c'est quelque chose qui peut les aider. Ce qui est, en fait, c'est une lampe spéciale que vous avez dans votre maison, puis à laquelle vous vous exposez la lumière de cette lampe-là à tous les jours le matin, pendant 30 à 60 minutes, dépendamment de la puissance de la lampe, dans les 10 minutes qui suivent le réveil. C'est sûr que le soleil peut faire la job, mais des fois, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est aussi une option. Puis, ça peut aussi être efficace pour les gens qui, disons, qui travaillent de nuit ou qui ont des problèmes de sommeil. Ça peut régulariser le rythme circadien qu'on va voir, en fait, je pensais que c'est la prochaine, dans deux, la prochaine après celle-là, la prochaine diapositive après celle-là. Il y a l'air et la respiration. Vous voyez, on passe à travers les 8 lois de la santé, dans le fond. L'air et la respiration, des études scientifiques ont démontré que lorsque le niveau d'oxygène dans le sang, et donc dans le cerveau, est en deçà du niveau optimal, l'humeur est gravement affectée. Donc, évidemment, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'endroit plus oxygéné qu'à l'extérieur, dans la nature, où est-ce qu'il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres. Donc, de un, ça, c'est sûr que si vous avez accès à ça, c'est un plus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des exercices de respiration aussi, qu'une personne qui est en dépression, bien, c'est bon pour tout le monde. Évidemment, c'est toujours bon pour tout le monde. Puis, une chose aussi qu'on n'a pas dite, c'est que n'importe qui, nous sommes tous sujets à différents degrés à la dépression. Donc, tout ce qu'on dit, c'est bon pour absolument tout le monde qui se trouve dans cette salle. Mais c'est sûr qu'évidemment, particulièrement pour ceux qui ont des prédispositions importantes et évidemment aussi pour ceux qui en souffrent. Donc, exercice de respiration qui améliore l'humeur parce qu'elles augmentent le taux d'oxygène dans le sang. C'est très simple, une heure par jour, prendre des profondes et grandes respirations, 6 par minute, c'est-à-dire 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer, pour augmenter le taux, le niveau d'oxygène dans le sang. Puis ensuite, le repos et le rythme circadien. Je vais passer à la section d'en bas. Le rythme circadien, si vous avez jamais entendu l'expression, c'est l'horloge qu'on a à l'intérieur de nous qui nous dit quand est-ce que c'est l'heure d'aller dormir, quand est-ce que c'est l'heure de se coucher, quand est-ce que c'est l'heure de manger. Puis, le dérangement de ce rythme circadien-là, en fait, la dérégularisation, si c'est un mot, peut entraîner des problèmes de dépression aussi. Le manque de sommeil, évidemment, qui c'est relié, là, le manque de sommeil continu, de sommeil adéquat, peut aussi mener à la dépression, qui, elle, peut causer de l'insomnie. Donc là, vous voyez, on est dans un genre de cercle vicieux qu'il faut à tout prix éviter. Et aussi, ce qui est important de dire, chers jeunes, c'est que le sommeil avant minuit est le meilleur. Je sais que parfois, c'est difficile de se coucher tôt, mais on le sait, je pense que Ellen White nous l'a dit et la science nous le dit également, le sommeil avant minuit est le plus réparateur. Puis une chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que pour régulariser ce rythme circadien-là, c'est bien beau de savoir c'est quoi, mais comment est-ce qu'on le régularise pour qui ait un effet positif sur notre humeur, sur notre état mental. En fait, tout ce qu'on a nommé précédemment, l'exercice, l'exposition au soleil ou à la lumière, l'exposition à l'air très oxygéné ou la respiration profonde, tout ça peut en fait régulariser notre rythme circadien. Tout ça est bon pour régulariser notre horloge interne, si on veut. Donc, c'est ça. Ensuite, les dépendances. Je pense que si vous savez tous en fait que les dépendances, ça a un effet négatif sur notre santé physique, sur notre santé psychologique. Puis, vous savez aussi peut-être que définitions préférées de la tempérance, parce que là, on parle un peu aussi de la loi de la santé qui est la tempérance dans les dépendances, c'est qu'il faut... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait notre définition adventiste, si je peux dire, de la tempérance?
S'abstenir de tout ce qui est mauvais et prendre avec modération ce qui est bon.
Exactement. S'abstenir de tout ce qui est mauvais et prendre ce qui est bon avec modération. Donc, ça vaut pour toutes les choses qui sont là et pour toutes les choses dont on peut être dépendant aussi. Donc, l'alcool, la drogue, c'est mauvais. On doit y toucher absolument pas. Nourriture, ben il faut y aller avec modération. On peut être accro à la nourriture. On peut, comme on dit, manger nos émotions. Chaque fois qu'on est triste, ben on mange un pot de crème glacée. C'est pas... c'est pas bon pour la santé, effectivement. On peut être accro au travail, on peut être accro au magasinage, on peut être accro à une autre personne aussi. Donc, toutes ces choses-là, ça joue sur notre humeur, c'est mauvais, ça a un effet négatif sur notre état physique et psychologique. Et je veux dire aussi, effectivement, qu'il y a une seule chose, en fait, c'est une personne de qui on peut être dépendant, et pas de surprise, c'est Jésus. Je pense que on peut être dépendant de Jésus, je pense qu'il faut être dépendant de Jésus, il faut dépendre. Notre Père qui est aux cieux veut que nous dépendions de lui pour tout, toutes les choses dont on a besoin. Ensuite, il y a l'environnement social, le stress aussi, qui peuvent nous prédisposer à la dépression. Donc, prédisposition sociale, absence de support social. Donc, si on n'a pas un bon cercle d'amis, les événements négatifs et stressants qui arrivent dans notre vie. Ensuite, les dépendances, comme on l'a dit. Puis, des sources de stress. Puis, je voudrais en fait mettre l'accent sur les sources de stress parce que le stress, c'est un mal des temps modernes. On en a tous trop. Et dans bien des cas, c'est quelque chose qu'on peut aussi éviter ou qu'on peut manier, disons. Qu'on peut gérer. Donc, des sources de stress, par exemple, les dates butoirs, les examens, ces choses-là, les travaux qu'il faut remettre. On en a déjà aussi au travail. Moi, je suis traductrice, j'en ai tout le temps. Surplus de travail. Je pense qu'en plus, nous, on est particulièrement, je pense, sujet au surplus de travail. Parce qu'en plus de travailler fort, en plus d'aller à l'école, on est impliqué dans nos églises. Donc, ça, c'est quelque chose qui ajoute à notre fardeau quotidien, disons. Les relations familiales, les finances, la maladie, soit nous, si on est malade, mais ça peut être aussi la maladie d'un proche, et les pertes aussi. Bien, la perte, comme on l'a dit déjà de toute façon, d'un emploi, d'un être cher. Mais, juste un instant... Donc, mais toutes ces choses-là, en fait, ils sont dans la catégorie de choses qu'on peut manier parce qu'il y a des techniques, on peut maîtriser notre stress. On peut, par exemple, l'obéissance aux 8 lois, se coucher tôt, par exemple, ça peut jouer sur notre stress, ça peut jouer sur la façon dont on gère notre stress. Des fois, on peut éviter carrément la situation stressante. Je vous donne un exemple. Vous êtes une jeune adventiste et vous avez un copain non-adventiste. Ça peut vous causer parfois un peu de stress, un peu de... peut-être même beaucoup de stress. Peut-être que briser la relation pourrait vous aider. Non, mais c'est juste un exemple pour dire qu'il y a des situations, des fois, dans lesquelles on se trouve qu'on peut éviter... Donc, on peut sortir de ces situations-là. Ensuite, on peut des fois, il y a des façons parfois de s'adapter aussi. L'organisation de notre horaire peut parfois nous permettre de nous de gérer notre stress ou d'en éliminer certaines sources de stress de cette façon-là. Mais je vous dirais que la solution ultime pour gérer le stress se trouve dans la Bible. Philippiens 4, versets 6 et 7, c'est un passage qu'on a lu ce matin, d'ailleurs, où Jésus nous dit, c'est Paul qui l'écrit, en fait, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Puis je veux faire une petite insistance sur les actions de grâce. Parce que il y a quelques mois, je pense, j'avais mis quelque chose sur mon Facebook, puis je mets vraiment rarement des choses sur mon Facebook, là. C'était une petite expérience, en fait. Je peux pas dire que c'était une étude scientifique, mais c'était une expérience qu'ils avaient fait avec des gens qui devaient appeler quelqu'un qu'ils aimaient, puis qui devaient les remercier de ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Et puis, après ça, ceux qui dirigeaient l'expérience demandaient aux gens qui avaient téléphoné à leurs proches pour les remercier. Ils leur demandaient comment ils se sentaient. Puis tout le monde se sentait léger, se sentait heureux, se sentait bien d'avoir, en fait, rendu quelqu'un heureux. Donc, et d'avoir, en fait, c'est ça, remercié, redonné à la personne qui avait fait pour eux quelque chose. Donc, action de grâce, remercier Dieu, reconnaître ce qu'il fait pour nous, ça a aussi une instance sur notre état spirituel et notre état mental, psychologique. Donc, voilà pour certaines solutions. Nathalie va poursuivre avec d'autres solutions.
OK. Je vais utiliser ce verset-là. Je n'avais pas prévu de le faire, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est parce que, effectivement, remercier, ça fait du bien. Et même les personnes athées peuvent remercier, effectivement, comme elle disait tout à l'heure, se sentir bien. Mais il n'y a rien qui peut prouver à une personne athée qu'effectivement, elle va recevoir les choses qu'elle a demandées. Par contre, c'est l'avantage que nous, on a. Nous, on croit en Dieu, et donc les choses qu'on souhaite, on peut croire qu'effectivement, ça va arriver. Surtout si c'est conforme à la Bible, on peut croire que Dieu va effectivement amener ces choses-là à existence. Donc, on a vraiment un avantage, et il ne faut pas mettre Dieu et notre foi en Dieu sous nos fesses et s'asseoir dessus comme si Dieu n'existait pas dans nos vies, alors que c'est un très très grand avantage. On peut croire que les choses peuvent aller mieux parce que Dieu nous a promis. Mais il y a quelque chose qu'on des fois on remarque pas trop dans ce verset-là, parce que ça dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est là qu'on va la recevoir. Mais ici, ça ne dit pas qu'on va recevoir la paix parce que Dieu nous a donné la chose qu'on voulait. On dit qu'il y a quelque chose qui manque. Mais la paix, on la reçoit parce qu'on croit et parce qu'on a remercié Dieu. On sait qu'il va amener ces choses-là à existence. Donc, on n'est pas obligé de recevoir pour effectivement déjà aller mieux, pour être en paix. Donc, l'alimentation, on a parlé tout à l'heure des 8 lois de la santé. L'alimentation est très importante parce que c'est ce qui va donner l'énergie à notre corps, c'est ce qui va créer des hormones. Et donc, le corps a tous les mécanismes possibles et inimaginables pour pouvoir résister à une dépression. Une dépression, ce n'est pas normal. Comme on disait tout à l'heure au début, dans l'extrait que Marie-Michel a lu, une dépression, c'est comme un cancer. C'est encore un cancer de l'esprit. Un cancer, c'est une maladie liée au style de vie. Donc, c'est la même chose pour la dépression. Donc, l'alimentation. Donc, ici, on a la plupart des hormones et des vitamines principales qui permettent de combattre la dépression. Donc, la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui est utilisée par le cerveau pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir combattre la dépression. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez trouver dans votre nourriture. C'est une hormone que le corps crée en utilisant la lumière, mais aussi en utilisant quelque chose qui s'appelle le tryptophane. Et le tryptophane, on en trouve dans le soja et dans les noix de cajou, par exemple. J'ai pas mis... Les listes ici ne sont pas exhaustives parce que ça aurait été trop long, mais dans le soja, beaucoup de tryptophane et aussi les noix de cajou. Ensuite, l'oméga 3. Alors, l'oméga 3, d'habitude, on pense qu'il y a de l'oméga 3 dans le poisson. Mais c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux chercher son oméga 3 dans les végétaux comme les graines de lin et les graines de chia. Parce que dans le poisson, maintenant, il y a tellement de mercure, les eaux sont tellement polluées que maintenant, la plupart des poissons qu'on mange sont remplis, sont pollués de cancer et tout ça. Donc, il vaut mieux pas récupérer son oméga 3 à partir des sources animales. Par contre, dernièrement, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que les bébés qui ne recevaient pas le lait de leur mère souffraient d'un manque d'oméga 3, qui fait que même si plus tard dans leur vie, ils réussissent à avoir un apport régulier et correct d'oméga 3, c'est trop tard. C'est quelque chose qui est irréversible. Donc, surtout si vous pouvez donner du lait maternel à vos bébés, faites-le. Parce que aussi, si le bébé manque d'oméga 3 qu'il pourrait récupérer dans le lait maternel, ça a un effet aussi sur le QI. Un bébé qui n'a pas reçu le lait maternel, quand il devait le recevoir, perd de 9 à 10 points en QI. Donc, la vie d'adulte se prépare depuis la petite enfance. Alors faites attention à ce que vous mangez et faites attention à ce que vous donnez aussi à vos bébés. Ensuite, l'acide folique, vitamine B, très important, et on trouve beaucoup dans les pois chiches et dans les lentilles. Et puis la vitamine B12 qu'on trouve beaucoup dans la levure de bière. Les toxines Alors, on va y aller rapidement. Le plomb, le mercure, manganèse, bismuth, arsenic, tout ça peut créer de la dépression. Mais à ce moment-là, si vous avez de la dépression liée à aux toxines, là, on appelle ça une dépression biologique. Et donc, les traitements sont différents. Donc, le lobe frontal. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les fonctions du lobe frontal? Déjà,
ça permet d'avoir l'inhibition.
Ok, l'inhibition.
Analyse.
Déjà,
analyse,
oui. Ok, c'est bon. Prendre des décisions. J'entendais un petit peu, mais tout ça, bien sûr. Ok, mais déjà, où ça se situe? Je sais que c'est facile, c'est une question bête. Ok. Je vais lire le verset Apocalypse 22, verset 3 à 4. Ça dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Donc, ça pour expliquer que le lobe frontal, c'est vraiment une partie du cerveau qui est peut-être la plus importante, parce que comme on disait, ça permet de prendre des décisions, mais c'est le siège de la moralité, le siège de la spiritualité. Et c'est aussi le siège de la volonté. Et donc, il faut, si on doit entretenir une partie de son cerveau, c'est vraiment cette partie-là, parce qu'on pense même que le Saint-Esprit nous parle, et nous parle à travers, en fait, notre lobe frontal. Donc, si notre lobe frontal est affaibli, donc là, on peut déprimer, et puis, évidemment, on déprime, parce qu'évidemment, le Saint-Esprit ne peut pas nous parler aussi clairement qu'il aurait voulu. Donc, d'après vous, quelles sont les choses qui pourraient affaiblir votre lobe frontal? Dans quelle situation affaiblirait-on notre lobe frontal? Vas-y.
Je dirais le manque de sommeil, la drogue, l'alcool, des choses qu'on avait tantôt.
Ok. Oui, c'est ça, le café aussi. Ce sont les choses évidentes. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes. L'hypnotisme. Mais là, on va dire, oui, mais moi, je ne fais pas de séance d'hypnotisme, donc ça ne me concerne pas. Mais finalement, quand on regarde la télé, on se fait hypnotiser. Pourquoi? Parce que, déjà, les séances d'hypnotisme, en général, ils utilisent beaucoup la lumière. Et ce sont des lumières qui clignotent, mais c'est la même chose avec la télé. Et surtout, quand on regarde la télé, on a tendance à éteindre les lumières. Et puis la lumière qui clignote en face, c'est la télé. Donc finalement, on se fait hypnotiser tous les jours. L'hypnotisme, ça désactive le lobe frontal. Et on peut regarder le lobe frontal comme un pare-feu. C'est ce qui, par exemple, quand vous subissez une situation difficile, le lobe frontal va vous aider à gérer la situation. C'est vraiment un pare-feu. Par contre, quand si vous regardez la télé, parce que vous êtes hypnotisé, le lobe frontal est désactivé et les situations et toutes les émotions que vous allez ressentir, il n'y a aucun contrôle. Donc, mais la musique aussi, et surtout le rap, a un pouvoir hypnotique sur le cerveau. Donc à chaque fois que vous regardez la télé, à chaque fois que vous écoutez de la mauvaise musique, vous désactivez votre lobe frontal et après des fois on se demande, mais pourquoi je suis triste après avoir écouté de la musique? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Ah ben, c'est parce que votre lobe frontal n'était plus là pour pouvoir gérer les émotions, pour pouvoir, si vous voulez, retraduire les situations. Oui?
Ben, est-ce que c'est chaque fois qu'on regarde la télé ou ça dépend,
oui,
des émissions?
Ben, ok.
Par exemple, si je regarde Il est écrit.
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça dépend effectivement des programmes. Parce que ce qui se passe passer, c'est que plus la lumière clignote vite, et plus effectivement vous allez entrer dans un état hypnotique. Mais
donc
c'est
les spots publicitaires. Plus il y a d'images qui passent rapidement, pire c'est.
Et surtout les spots publicitaires, des fois on passe d'une scène à une autre qui n'ont pas de lien. Tu sais, ça n'a pas trop de logique et puis c'est souvent débile. Alors ça, tout de suite, après 30 secondes de visualisation, vous pouvez être sûr que le lobe frontal est désactivé. Mais par exemple, Il est écrit, c'est différent parce qu'on ne passe pas d'une scène à une autre facilement. On voit la personne qui parle pendant, je sais pas moi, une minute, et puis après on bouge lentement vers le visage d'une autre personne, donc c'est pas la même chose. Oui?
C'était une petite anecdote parce que tu as parlé du rap.
Oui.
Puis j'ai déjà vu, ils parlaient des encanteurs, tu sais, ceux qui font les encants.
Oui.
Ils parlent très vite, puis ils disent même rien entre les choses. Puis ils expliquaient que c'est vraiment pour hypnotiser la personne pour qu'elle soit plus apte à lever le bras. Puis ils disent rien, hein. On pense qu'ils parlent vite, puis qu'ils sont bons pour parler vite. Mais ils disent rien entre les mots qui se comprennent. C'est les mots qui se comprennent pas, ils disent pas qu'ils disent pas. Fait que c'est juste pour dire. J'ai un ami qui a publié sur Facebook un encanteur sur lequel ils ont rajouté du beat de rap. Puis ça faisait vraiment genre un rappeur, là, tu comprends? Ça avait comme pas de différence, on dirait, avec la musique rap. Et puis l'encanteur, quand tu rajoutais la musique rap par-dessus. Fait que là, j'ai vraiment fait le lien que ce que tu viens de dire. Tu viens de dire ça, puis j'ai dit, ah, mais j'avoue que un lien.
J'avais vu un documentaire de Little Light Ministries qui s'appelle Pseudologie, et ils avaient fait l'interview d'une femme qui n'est pas du tout adventiste ni même chrétienne, qui avait dit que le pire qu'on puisse faire à son enfant, c'est de le laisser écouter du rap, parce que le rap hypnotise. Et souvent, je ne sais pas si... Parce que des fois, une fois que j'ai parlé de ça à Norwood, il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, le rap, ça me calme. » Mais c'est vrai. Ça calme, mais des fois, la personne m'a dit oui, mais ça m'aide même à étudier. Effectivement, c'est sûrement le cas, c'est sûrement que mais moi, j'écoutais du rock et je disais la même chose, que ça me calmait. C'est parce qu'on rentre dans une espèce d'état hypnotique où effectivement on est calme, on a l'impression que c'est ok d'écouter, mais ça n'est pas vrai. Par exemple, je peux dire que j'ai souvent été dans des états de dépressifs très profonds. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait rien de mauvais qui m'était arrivé. Je n'ai rien perdu, il ne s'est rien passé dans ma famille. Tout va bien, et pourtant je suis très profond dans mon trou dépressif. Et comment je me suis rendu compte, c'est que ma mère me disait « Tu es dans cet état-là à chaque fois que tu écoutes Eminem. » J'étais une grosse fan d'Eminem, jour et nuit. Jour et nuit, c'était Eminem. Je sais pas pourquoi j'étais accrochée à ça, alors surtout que j'écoute pas le rap, c'est plutôt du métal. Mais elle me disait, à chaque fois que tu écoutes la musique, à chaque fois, elle me disait qu'elle-même, elle avait peur parce que j'avais des comportements mais vraiment bizarres. Des fois, je disais des trucs où je ne me rendais pas compte, mais tout le monde me disait, mais t'es vraiment bizarre. Et elle a retiré, elle a brûlé le livre. J'avais un livre de biographie d'Eminem, elle a brûlé, elle a retiré tous les CD. Et effectivement, même en me forçant, parce que c'est elle qui a retiré, je me suis sentie mieux. Et après, je me suis dit, bon, c'est le hasard, bref, nanana, j'ai tout récupéré, les CD qu'elle n'avait pas voulu, j'ai récupéré. Mais une fois que j'ai recommencé à écouter, hop, je suis retombée dans la dépression. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir chez les gens qu'on appelle les émos, vous savez, qui sont un peu dépressifs. Mais si tu leur demandes pourquoi ils sont dans cet état-là, ils vont dire qu'ils ne savent pas. Que c'est juste leur état d'esprit, c'est comme une mode, c'est comme ça qu'on est. Mais c'est la musique qu'ils écoutent, parce que la musique qu'ils écoutent, c'est de la tristesse, c'est du suicide, et puis des clips qui sont liés à ça, c'est surtout, vous connaissez Evanescence? Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien après avoir regardé un clip d'Evanescence? Mais ils vont écouter ça. Moi, j'écoutais ça jour et nuit, même pendant la nuit, même à l'école. Je ne pouvais pas décrocher de ça et ça me gardait dans un état dépressif, alors que dans ma vie, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien dans ma vie qui pouvait créer quelque chose comme ça. Donc il faut faire attention à ce qu'on écoute. Se demander si ce qu'on écoute, si ce qu'on regarde, si même ce qu'on lit, même l'esprit de prophétie dit que la lecture fictionnelle peut créer une imagination. Et même la lecture des romans de Lodoros, il faut faire très attention parce que ça crée quelque chose dans nos esprits qui n'existe pas, et on recherche ces choses-là qui n'existent pas, et donc on peut tomber dans un état dépressif alors que rien dans nos vies, on n'a rien dans nos vies pour créer quelque chose d'aussi profond. Oui?
Yes, about the music, I used to listen to rock too, and I used to be into that punk rock scene kind of, and it really put me in a state of mind that, like you said, there was nothing else in my life that would have done this, except this type of music. And it made me feel as if I was emo, as if I was sad at the time when in reality it was not the case.
Mm-hmm.
And but so just to go back to what you're saying about the fast moving images, I think not many people realize that the show SpongeBob is one of the worst shows that you can put your kids in front of. There's been studies done that show that it actually makes your kids slower.
Mm-hmm.
Because there's, like you said, there's images moving by so quickly and none of them make sense. They're not linked with each other at all. And there's so many... And there's even cartoons on Disney and people actually let Disney enter into their homes thinking that it'll help their kids when in reality it's not the case at all. And Disney actually prides himself on that. Walt Disney himself said that to get the society, you have to get the kids while they're young.
C'est ça. Souvent, ils mettent des programmes qui sont complètement débiles. Et des fois, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est débile, et puis les enfants, ça leur fait rien. De toute façon, c'est pas violent. Mais ça affaiblit le pouvoir de volonté, ça affaiblit, et ça peut même physiquement, vous pouvez avoir votre lobe frontal qui commence à perdre de la masse, juste parce que vous regardez des choses qui sont débiles. Et Dieu n'a pas créé notre cerveau pour être constamment en face de choses débiles. Donc, on peut croire que c'est débile, ça fait rire, c'est OK, c'est pas violent, donc je continue. Mais en fait, non, ça a quand même des effets négatifs. Sinon, quelque chose qui m'a fait sursauter, j'étais à une convention jeudi soir sur le génocide au Rwanda, qui avait été présenté par le général Roméo Dallaire, qui a été spectateur et même, il a aidé beaucoup de Rwandais à survivre, qui souffre actuellement de stress post-traumatique à vie, mais il a dit quelque chose sur la fin de la conférence, c'est que comment le génocide est arrivé, c'est que les Hutus avaient une chaîne de radio sur laquelle, sur les ondes, ils parlait à longueur de journée qu'il fallait se débarrasser des coquerelles et des ravets, des choses comme ça, qui étaient en fait les Tutsis. Il a dit quelque chose d'intéressant, c'est que dans cette radio-là, il passait à longueur de journée de la musique ensorcelante. Et là, on parle de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et il a dit, à longueur de journée, il mettait de la musique ensorcelante qui a poussé les gens à rentrer dans cette tuerie systématique et de tuer en fait d'autres Rwandais. Et je sais, personne n'avait eu l'air de réagir, mais moi ça m'a fait réagir tout de suite. Parce qu'effectivement, j'avais lu dans L'Art de bien penser de Dr. Neil Nedley qui disait que souvent avant de partir en guerre, les gens faisaient de la musique et souvent il y avait les tam-tam, boum, 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 et que ça permettait aux gens d'agir et de prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais prises s'ils n'avaient pas écouté la musique. C'est ça, devenir insensible ou pouvoir réagir rapidement. Par exemple, il faut que je tue cette personne vite parce qu'elle m'agresse, alors que c'est pas forcément vrai. Oui.
Dans l'intervention, c'est juste parce que j'ai un ami qui est allé filmer un documentaire dans le printemps arabe en Libye, Égypte, pendant que ça avait lieu. Puis il parlait à des jeunes qui, quelques mois auparavant, ils étaient à l'université, des jeunes bien normales, qui maintenant devaient avoir des fusils dans les mains et tirer sur des militaires, ou tirer sur des rebelles, ou tirer sur peu importe. Puis il dit, mais comment t'arrives à faire ces choses-là? Il dit, ben, je serais jamais capable, à moins que je prenne la grosse drogue qu'on nous fournit avant. Il dit, quand on prend la drogue, après, on est capable de faire des choses qu'on serait jamais capable de faire, si ce n'était pas de ça, tu sais. Fait que lui, il disait aussi également, puis des fois, je me dis, moi, je serais jamais allé à la guerre, je me demande comment je serais capable, mais c'est probablement en étant dans un état second, en fond, mais plus tellement de même où on réfléchit pas comme on réfléchit parce qu'on bypass notre façon de réfléchir. Puis le jeune, il disait ça justement. Là, tu parles des 30 ans, mais la drogue, c'était comme sa façon à eux d'arriver à faire des gestes comme ceux-là.
Mm-hmm.
Donc ça rejoint ce que tu dis que l'œuvre frontale, c'est comme une forteresse. Donc il faut l'abaisser.
Oui.
Pour être capable à ce moment-là, à travers des moyens différents, mais d'atteindre les mêmes résultats.
Mm-hmm. Oui, parce que on a le lobe frontal ici, mais à l'intérieur de notre cerveau, on a la zone limbique qui en fait crée les émotions. Et donc, il y a beaucoup de musiques qui bypassent complètement le lobe frontal et qui vont directement toucher la zone limbique. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui deviennent colériques, qui s'énervent, ou alors des fois qui deviennent calmes. Parce que la musique a un effet, et ça c'est connu depuis longtemps, si on regarde même dans la Bible, quand le Saul était déprimé, le roi David venait jouer de la musique et il se sentait mieux après. Et même dans l'Antiquité, avec Aristote, Aristote disait que la musique c'était la loi de la moralité, c'était la loi de l'esprit. Suivant la musique que tu écoutes, tu seras, ça te met dans des différentes situations. Tu peux être colérique, moi aussi ça peut te calmer. Donc l'effet de la musique est connu depuis bien bien longtemps, c'est juste que dans la société dans laquelle on vit, on pense que rien ne nous atteint, rien n'a de aucune musique ou aucun film n'a de conséquences sur nous, mais c'est faux. On interagit beaucoup avec notre environnement, on est des animaux de société, on réagit à tout. Tout a un effet sur nous. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on met devant nos yeux et ce qu'on entend.
Oui, je l'ai passé.
Est-ce que tu veux que je le passe?
Non, je l'ai fait.
Ok.
On passe.
Ok. Donc, je pense que c'est une question intéressante. Prendre ou ne pas prendre des médicaments quand on est dépressif. Qu'est-ce que vous pensez?
Idéalement, si on peut s'en prendre, c'est une alternative.
Ok. Ok, une alternative, c'est mieux.
Je pense que ça dépend du dosage. Donc, tant que tant que les médicaments sont amenés sur la voie de la guérison, c'est l'impression que j'ai, je veux dire, en mettant tant de milligrammes, après ça, de moins en moins, jusqu'à ce que ça aille de mieux en mieux.
Okay.
C'est ça que je pense, mais je veux dire, si c'est chronique, c'est peut-être c'est pas idéal, c'est pas naturel.
Ok.
Ça dépend des causes.
Ok, ça dépend des causes, effectivement, parce que si c'est une dépression situationnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, par exemple une perte d'un proche, on peut s'en sortir. On dit souvent que le temps guérit les blessures, donc ce n'est pas nécessaire de prendre un antidépresseur. Par contre, si la perte est trop immense et que la personne ne peut pas gérer, on peut donner des antidépresseurs qui ont un effet sédatif. C'est-à-dire que c'est juste pour aider la personne à passer à travers cette période-là, donc ça c'est un pouvoir calmant. J'ai posé cette question-là parce que moi, comme j'ai pu m'en sortir sans médication, et souvent quand dans le monde adventiste, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je ne veux pas de médicaments, c'est mauvais. » Et moi j'aurais eu tendance à penser la même chose, parce qu'on dit « Bon, je crois en Dieu, donc je n'ai pas besoin de médicaments. » Jusqu'à ce que je tombe sur cet extrait de Ministère de la Guérison, chapitre 16, qui dit « Ceux qui désirent être guéris par la prière ne devraient pas néanmoins négliger d'employer les remèdes à leur portée. Ce n'est pas manquer de foi que d'user des moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour alléger la souffrance et de seconder la nature que de collaborer avec Dieu et de se placer dans les conditions les plus favorables à la guérison. Ayant prié pour la guérison des malades, nous pouvons redoubler de zèle à cet égard, tout en remerciant le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de collaborer avec lui et lui demander de bénir les remèdes qu'il met à notre disposition. » Je trouvais ça très intéressant, surtout pour moi qui aurais tendance à dire pas de médicaments en aucun cas.
Mais ce qu'on a le contexte, quand elle parle de remèdes, elle fait référence à quel outil ?
Elle parle de remèdes naturels, je pourrais te montrer tout à l'heure, mais elle parle aussi de en anglais, c'était drugs. Donc là, c'est vraiment de la médication qui n'a rien à voir avec les thés, les tisanes et tout ça. Parce qu'effectivement, dans le cas de la dépression, bon, par exemple, le cas de la dépression situationnelle, on peut très bien s'en sortir sans médicaments. Mais des fois, il y a des dépressions cliniques, biologiques. C'est dû, par exemple, on peut boire de l'eau et puis il y a du plomb dedans. Et on fait une intoxication au plomb et là, on est déprimé. Des fois, le temps de se rendre compte pourquoi on est déprimé, ça peut prendre du temps. Et des fois, la dépression peut être telle que la personne peut mettre fin à ses jours. Et donc, pour aider et pour pouvoir se gagner du temps, la personne pourrait prendre des médicaments juste pour qu'on ait le temps de savoir pourquoi, blablabla, le temps de réagir. Et parce que surtout, les médecins peuvent se rendre compte que la personne ne pourra pas survivre. On peut voir quelqu'un et se dire, la personne va passer 2 jours comme ça, elle va mettre fin à ses jours. Donc on peut pourvoir et donner des médicaments. Après, c'est la décision de chacun de prendre ou ne pas prendre. Ça dépend aussi de votre relation avec Dieu et tout ça. Mais cet extrait-là me pousse à penser que la médication peut être aussi une solution à un moment donné.
Mais je dirais aussi peut-être pas seulement la médication. Même dans le cas où peut-être on peut utiliser la médication, en aucun cas on dirait ne prenez que la médication et ne faites rien d'autre. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui est important. Et s'il y a médication, c'est avec tout ça.
Donc, comment aider? Qui est-ce qui connaît quelqu'un qui est dépressif? Je pense qu'on est nombreux et puis souvent on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment aider, surtout qu'on ne peut pas pousser, forcer la personne à aller mieux. Donc, il y a quelques petites choses. Par exemple, éviter de le culpabiliser, de lui dire « Oh, t'es comme ça parce que tu penses trop. » Ou « Tu sais, tu devrais être plus logique, utilise ta logique, comment tu ne comprends pas la situation, comment ça se fait que tu ne vois pas la situation clairement, comment ça se fait... » Bref, ne pas culpabiliser parce que la personne est dans un état où elle ne peut pas s'aider elle-même. Donc, pas culpabiliser la personne. Ensuite, prendre la souffrance au sérieux. Ne pas dire « Oh, ça va passer. Tout le monde a ses propres problèmes. Tu vas t'en sortir. » Il faut vraiment faire comprendre à la personne qu'on sait qu'elle souffre et qu'on comprend, comment dire, qu'on a identifié sa souffrance, qu'on ne sait pas de faire comme si ça n'existait pas. S'arranger pour que l'entourage soit positif, même si la personne... quelqu'un de dépressif va toujours voir les choses négativement, mais vous êtes là pour essayer de rétablir la situation. En fait, vous êtes son lobe frontal. C'est à vous de lui expliquer que les choses ne sont pas si négatives. C'est à vous de pousser la personne à montrer lui... Vous savez, il y a la chanson « Count your blessings ». Il faut compter les bénédictions pour cette personne et lui montrer, voici, toi, tout n'est pas négatif, ça marche, ça c'est bien, nanana. Ensuite, garder le contact avec ses amis. C'est ça, il faut essayer d'intégrer la personne socialement, lui dire, tiens, on va aller au restaurant, tiens, on va, je sais pas, marcher dehors. Et il faut éviter que la personne soit tout le temps toute seule. Et puis, une souffrance pour les proches. Souvent, il faut que les proches soient aidés eux-mêmes, parce que c'est long et difficile. Et puis, évidemment, la prière. Je ne vois pas d'autre solution. La prière va donner l'énergie nécessaire, enfin vous donner l'énergie nécessaire et aussi l'énergie à la personne qui est dépressive. Mais il faut savoir se protéger parce que moi ça m'est déjà arrivé d'aider quelqu'un qui était déprimé. Et souvent on glisse finalement dans la dépression parce que finalement c'est prendre la vie de la personne sous ses propres épaules. Et ça peut arriver aussi que la personne peut devenir manipulative et vous dire que c'est votre faute si elle ne va pas mieux. Et va déverser toutes ces émotions sur votre dos. Donc ça peut être très difficile. Alors je dirais que si votre foi n'est pas stable, si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, d'éviter de vous investir trop. Tout ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vraiment de prier et de voir ce que Dieu peut faire. Parce que vous pouvez vous aussi glisser dedans. Et des fois, il y a des gens qui sont déprimés, qui vont mieux une fois qu'ils se sont déversés sur vous, et puis c'est vous maintenant qui devenez déprimé. Donc, il faut vraiment faire attention, et surtout la manipulation peut rentrer aussi dans le jeu, et vous allez vous sentir plus coupable du fait que la personne ne va pas mieux, que c'est votre faute. Et donc, on ne peut pas toujours se permettre de faire ça. Je vais conclure.
Oui, je voulais juste aussi ajouter une chose sur ce que tu viens de dire, parce que les gens déprimés, les gens dépressifs, on ne se racontera pas d'histoire, c'est des gens qui sont assez désagréables, OK? Bon, moi, mon père a souffert de dépression majeure pendant longtemps, et c'est insupportable. La personne, comme on a dit, ne veut rien faire, la personne se plaint en tout cas. Dans notre cas à nous, la personne se plaint beaucoup de tout ce qui va mal et voit pas ce qui va bien non plus. Donc, mon père, par exemple, un peu comme toi, avait aucun problème dans sa vie, pas de problème financier, pas de problème il n'y avait rien qui semblait indiquer qu'il y avait des problèmes qui le menaient à cet état d'esprit, mais c'était ça pareil. Donc, ça prend de la patience, et comme elle dit, oui, peut-être pas s'aventurer si on n'est pas fort nous-mêmes, parce qu'on va tomber aussi. Puis en fait, une dernière chose que je veux dire en conclusion, c'est que ce qu'on a présenté aujourd'hui, surtout pour les gens qui souffrent déjà de dépression, c'est pas assez de dire, OK, ben moi, je vais faire de l'exercice, puis je vais manger mieux. C'est le tout qui est important. Dans le programme de Depression Recovery de Neil Nedley, il parle d'une dame en particulier qui a essayé plusieurs choses à des moments différents. Elle a souffert de dépression pendant plusieurs années. Puis ici et là, elle essayait des nouvelles choses. Ça avait un effet positif, mais pas à long terme. Et ça n'avait pas un effet complet non plus. Elle n'était jamais complètement rétablie jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, puis qu'elle appelle directement au bureau du Dr. Nedley. Puis, ce que son assistante lui a dit, en essayant de voir comme qu'est-ce qu'elle avait fait, puis comment elle se traitait, elle lui a dit, mais c'est tout que tu dois pratiquer. C'est de mettre tout en pratique, l'exercice, tout ce qu'on a dit, prendre soin du lobe frontal, prendre des grandes respirations, tout ce qu'on a dit est important pour traiter la dépression. Et bon, on en a parlé un petit peu aussi, la médication, si nécessaire, parce que des fois, la personne va tellement mal que même lui dire de... ne peut plus penser, ne peut plus réfléchir. Fait que lui dire qu'elle doit aller faire de l'exercice, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de volonté. Donc, des fois, ça prend un coup de pouce, malheureusement, mais c'est l'intégralité qui est importante. Mais j'espère surtout qu'on conclue cette présentation-là, qu'on sort de cette présentation-là en sachant qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses à faire pour les gens qui sont en dépression, qui souffrent de dépression même majeure. On a pris, je sais qu'il commence à être tard, je ne sais pas si on a du temps un peu pour les questions. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions, s'il y en a? Mais on n'a pas le temps? OK.
On a dépassé de combien?
Oui, c'est ça. Il est comme 9h, genre, je ne sais pas. OK. Ça ne m'étonnerait pas.
9h-10.
Bon. Donc, je pense qu'on va courber la tête pour une courte prière. Est-ce que tu veux prier, Nathalie?
Ouais, je veux juste dire quelque chose. C'est que la confiance en Dieu, c'est l'élément ultime. Et c'est vraiment ce qui m'a aidée. J'ai mis la photo, enfin l'image de Jésus avec un enfant qui peut-être lui apprend à marcher, quoi que ce soit. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Dieu m'a rééduqué jour après jour, m'a rééduqué à comment penser positivement. Ça a pris peut-être 6 mois, ça a été long. Mais la prière, si vous priez pour quelqu'un qui est dépressif avec tout votre cœur, vous allez voir des effets assez rapidement. Je le vois en ce moment avec quelqu'un qui est dépressif. C'est peut-être du jour au lendemain, vous allez voir des petits signes à gauche et à droite que Dieu, effectivement, est en train de parler petit à petit et rééduquer la personne à aller mieux. Et ça marche vraiment. Donc oui, on peut prier. C'est moi qui prie ?
Oui, vas-y.
Okay. Seigneur Jésus, merci de nous avoir permis de finir la présentation. Seigneur, nous espérons que nous avons fait le travail que tu voulais que nous fassions, et qu'il est clair pour tout le monde que la dépression est quelque chose dont on peut guérir, qu'il est possible de guérir, même si ça fait des années, même si toute notre famille est aussi malade. Seigneur, je l'ai vu dans ma vie, je sais que d'autres personnes vont aussi faire l'expérience, que tu es un Dieu de paix et que tu es un Dieu qui, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, peut accorder la paix à tout un chacun. Seigneur, la dépression est un cancer de l'esprit et ce n'est pas normal. Tu n'as jamais voulu cela pour aucun de tes enfants. Alors Seigneur, si quelqu'un souffre de dépression, que tu l'aides, que tu lui donnes l'énergie que cette personne n'a pas. Et si quelqu'un veut aider quelqu'un qui est dépressif, Seigneur, que tu lui donnes la sagesse, le courage et l'énergie de poursuivre et d'aider. Seigneur, que ta volonté soit faite au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen.